Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Une proie facile, c'est ainsi que mon invité présente l'économie européenne. Une Europe assiégée par les fonds souverains et les entreprises publiques étrangères. François-Xavier Carayon est consultant en stratégie et auteur d'un ouvrage paru chez Fayard intitulé « Les États prédateurs ». Bonjour François-Xavier Carayon.
Bonjour Ali.
Allez, de quoi parle-t-on dans votre livre? On va essayer de cerner ce que c'est que cette prédation économique.
Oui, c'est une enquête sur les investissements étrangers en France et en Europe, c'est-à-dire la manière dont certains acteurs, des entreprises, des fonds, investissent, acquièrent des entreprises ou des actifs technologiques en France et en Europe.
Phénomène récent ou pas?
Alors, c'est un phénomène ancien par nature, c'est-à-dire que les investissements transnationaux existent depuis toujours et se sont accélérés depuis les années 70-80. Ce qu'il y a de nouveau, me semble-t-il, c'est l'origine de ces investissements, le fait que de plus en plus d'États en développement, de puissances en développement en Asie, au Moyen-Orient, investissent en Europe. Et le deuxième caractère novateur, c'est le fait que ce soit souvent des investisseurs publics, c'est-à-dire étatiques, qui investissent chez nous.
Alors, nouveaux investisseurs, mais il y a quand même les anciens qui restent toujours, les anglo-saxons, en particulier les États-Unis. Vous ne les considérez pas, eux, comme des États prédateurs?
Si, d'une certaine façon. Alors, au sens strict, les États prédateurs, pour moi, sont justement ces acteurs publics. J'ai voulu mettre en lumière ce phénomène qui est peut-être moins bien connu. Évidemment, en parallèle, on continue d'avoir des investissements américains, nord-américains, très nombreux en Europe. En volume, ça reste les plus gros investisseurs. Donc, il faut évidemment continuer de regarder, si je puis dire, de tourner le regard vers l'Ouest. Il se trouve que ces investissements américains sont un peu différents en nature. Ils viennent souvent d'entreprises privées. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas animés par des...
Ou des fonds. Notamment dans l'equity.
Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas animés par des velléités politiques. Mais j'allais dire que le caractère politique est quand même moins direct que ce que j'ai essayé d'expliquer, de décrire dans ce livre, à savoir comment ces acteurs étatiques, souvent liés au gouvernement, pouvaient s'emparer de certaines de nos entreprises.
Alors on va essayer de cibler un peu plus précisément qui sont ces États prédateurs. Donc Moyen-Orient, on se dit plutôt les pétromonarchies, c'est ça, parce qu'il y a de l'argent?
Oui, c'est ça. La réalité, c'est que les fonds souverains, en fait, c'est des outils assez anciens. Le premier fonds souverain apparaît au Koweït en 1953. Et puis, peu à peu, dans la deuxième partie du XXe siècle, la majorité des pays exportateurs d'hydrocarbures, de gaz naturel, de pétrole, vont se doter de ces fonds souverains. Au départ, ces outils-là, c'est des outils économiques et financiers assez classiques. C'est-à-dire qu'ils cherchent à investir soit domestiquement, soit en bons du trésor américain, pour pouvoir créer une forme d'épargne intergénérationnelle, préparer l'avenir, ce qu'on comprend bien du fait de leur économie très spécifique tournée autour de cette...
Et il y a un basculement.
Et puis il y a un basculement.
Qui arrive quand?
À partir du début des années 2000, je dirais, où ils commencent à utiliser ces outils-là de façon plus politique. Alors évidemment, c'est par petites touches. Il ne faut pas considérer que ces investisseurs-là soient essentiellement politiques. Ils continuent d'être d'être des outils financiers, les outils qu'ils étaient hier. Et à côté de ça, leur gouvernement commence à les utiliser à partir du début des années 2000 pour aller investir dans des infrastructures critiques, dans des technologies de pointe en Europe ou en Amérique du Nord.
Massivement, parce que la plupart de ces fonds souverains, ils pourraient racheter la moitié du CAC 40 d'un seul coup, non?
Oui, exactement. Disons que les 10 premiers fonds souverains de la planète détiennent environ entre 400 milliards de dollars et 1300 milliards de dollars. Voilà. Donc ça vous donne un peu la puissance de feu de ces acteurs-là. Alors leur but, c'est pas, ils pourraient pas d'une certaine façon racheter le CAC 40 d'un seul coup, et évidemment les pouvoirs publics français les en empêcheraient. Mais ça veut dire qu'ils sont capables de déployer plusieurs dizaines ou parfois plusieurs centaines de milliards de dollars par an dans des acquisitions internationales.
Même configuration d'État en Asie ou pas?
Oui, alors si ce n'est que les fonds souverains ont une autre origine, en général c'est plutôt des excédents commerciaux ou budgétaires qui se sont matérialisés plutôt à la fin des années 90 et qui font que la Chine, par exemple, détient trois grands fonds souverains, notamment le CIC, qui gère plus de 1300 milliards de dollars.
Mmh. D'autres acteurs dans la région, l'Indonésie
Oui, ce que j'ai trouvé très intéressant, en fait, dans ce travail d'enquête, c'est que les outils qu'utilise la Chine, qui sont sans doute, on en reparlera, mais à mon sens, les plus sophistiqués et aussi les plus agressifs, Ces outils-là sont en train d'essaimer un peu partout en Asie. Donc le modèle d'État actionnaire conquérant de Pékin est en train de se diffuser. On voit les mêmes outils se développer en Corée du Sud, en Inde, en Malaisie et même à Singapour, qui est pourtant considéré comme le pays le plus libéral au monde.
Alors justement, c'est quoi ces outils ?
Alors ces outils, donc c'est les fonds souverains dont on parlait, mais c'est aussi les entreprises publiques. Parce que parallèlement, les entreprises publiques qu'on croyait en déclin depuis les années, vous savez, 80, 90, Margaret Thatcher, etc., dans ces pays-là, y compris en Chine, les vagues de privatisation ont aussi déferlé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le modèle asiatique soit un modèle en retard. Oui. Les vagues de privatisation ont aussi déferlé. Pour autant, comme pour les fonds souverains, ces États en sont revenus. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, ils se sont dit que l'entreprise publique, ça peut aussi être un outil. Pas simplement un outil pour aller gérer les services publics nationaux de façon domestique, mais ça peut être aussi un outil de conquête internationale, ouais. C'est-à-dire pour aller sur les marchés et aller récupérer des actifs, aller prendre le contrôle d'infrastructures.
Donc on voit des rachats d'entreprises privées qui redeviennent publiques de la part de ces acteurs et qui partent à la conquête, c'est ça ?
Exactement, exactement. Et le parallèle est assez intéressant parce que nous,
c'est là été l'inverse.
Nous, Français européens, on a des entreprises publiques. Du reste, on a encore de jolis vestiges de grandes entreprises internationales. Elles investissent aussi à l'international. Il ne faut pas être caricatural. Donc nous aussi, d'une certaine façon, occidentaux, européens, on a un caractère potentiellement prédateur. Alors, il se trouve que les grandes entreprises publiques françaises investissent essentiellement en Europe, en réalité, quand on regarde de près, un petit peu dans le reste du monde, mais assez marginalement en volume. Alors même que les concurrents chinois sont beaucoup plus audacieux, partent dans une conquête beaucoup plus large. On peut faire la comparaison, par exemple, entre un EDF, qui est resté même dans les belles années à 90% en Europe, et un State Grid, dont on ne connaît pas le nom, mais qui fait pourtant 5 fois ou 10 fois la taille d'EDF, qui est chinois, exactement, contrôlé par Pékin, et qui est parti à la conquête des marchés énergétiques en Amérique du Sud, en Afrique, dans le reste de l'Asie, etc.
Très trop ouvert l'Europe. Il y a eu une prise de conscience depuis un certain nombre d'années, en particulier depuis le Covid. Est-ce que les outils qui ont été mis en place récemment suffisent pour éviter cette prédation ?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'ils sont utiles. Donc le principal outil dont on dispose en France, c'est le dispositif de filtrage des investissements étrangers en France, ce qu'on appelle le dispositif IEF dans le jargon. Ouais. Exactement. Ce dispositif-là, il est utile. Il a été courageusement musclé par Arnaud Montebourg en 2014 à la suite de l'investissement de General Electric dans Alstom, du rachat. Ce dispositif-là a continué de se muscler après, notamment sous la présidence Macron, en particulier en élargissant le périmètre des secteurs qui pouvaient être protégés.
Ouais, et en baissant le seuil d'acquisition des entreprises étrangères.
Exactement. Initialement de façon temporaire, ça a vocation
mais là,
à être pérennisé.
Ouais.
Il reste que ce dispositif souffre, à mon sens, d'une faille importante, c'est qu'il permet de se protéger contre les investissements qui menacent la sécurité collective, la défense nationale, l'ordre public, quels que soient les secteurs qui sont inclus, mais ils ne permettent pas de se protéger contre les menaces de nature purement économique. Donc quand vous avez une technologie d'une grande valeur potentiellement financière pour l'économie française ou européenne, quand vous avez de l'emploi en jeu, quand vous avez la stabilité d'une chaîne de valeur qui est en jeu,
c'est
le dispositif ne peut pas nous protéger. À l'inverse, alors l'OCDE encadre les dispositifs justement pour que ces intérêts économiques ne soient pas entravés, protégés. Mais quand on regarde de près, dans le monde anglo-saxon, dans le monde libéral, qui est censé être évidemment un modèle d'ouverture, les États-Unis, eux, ont un concept, c'est la sécurité nationale. Et derrière la sécurité nationale, ils ont inclus la sécurité économique. Donc ils peuvent se permettre de filtrer les menaces de nature purement économique. Et au Canada, j'ai découvert un système qui est encore plus intéressant, qui s'appelle le bénéfice net national. Derrière le bénéfice net national, ils mettent tout un tas d'enjeux particuliers, y compris des enjeux économiques, et qui leur donnent les moyens, finalement, de filtrer les investissements en se disant, est-ce que c'est un investissement qui nous profite ou est-ce que c'est un investissement qui nous asservit ou nous appauvrit ? Vous voyez, sans naïveté, sans paranoïa.
Pourquoi on n'y arrive pas en Europe ?
Je pense qu'il y a un problème culturel. La page qui s'est ouverte au lendemain de la chute du mur et de la guerre froide était vraiment une page... résolument libéral, mais j'allais dire le mauvais libéraliste, c'est-à-dire celui qui a plus tendance à nous affaiblir, le libre-échange, et pas forcément l'autre libéralisme d'un point de vue fiscal ou juridico-administratif, etc. Je raconte ça dans le livre, je suis allé reprendre en détail alors parfois les textes un peu connus, peut-être un peu trop médiatisés, d'Alain Minc, La mondialisation heureuse, Jacques Attali, etc., pour essayer de recomprendre un peu l'odeur de cette époque. C'est-à-dire comment on a pu, à ce point-là, communier dans le marché roi, se dire que l'État allait disparaître, se dire que les échanges internationaux étaient forcément vecteurs de paix et que les États rivaux, les nations rivales, nous voulaient forcément du bien à travers les marchés économiques.
Dernière question, réponse rapide, c'est pas un juste retour des choses. Nous, l'Occident, on a été prédateur sur les ressources des autres pays, en particulier en Afrique.
On peut le voir de cette manière-là. Je suis moi-même européen et j'ai juste à cœur que mon pays et le continent européen savent se protéger et lutter à armes égales contre les autres nations.
Merci beaucoup François-Xavier Carayon pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.